De Radio Gémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia et je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son. Avec moi dans les studios, Jérôme Bonnet, auteur que vous connaissez sûrement déjà, un habitué des studios de RGM, on peut dire qu'il fait partie du décor hein, carrément maintenant, qui vient nous présenter son dernier roman, Babel, qui traite de la montée de l'IA dans notre société. Le physicien Stephen Hawking disait « La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait bien être aussi l'ultime. » Bonjour Jérôme, comment ça va ?
Eh ben bonjour Lia, content d'être ici comme d'habitude et puis d'être avec toi pour parler de l'IA. Je viens seulement de remarquer que ça se marie bien, c'est pas plus mal.
Ben voilà, on me l'a fait depuis tellement longtemps cette blague.
Ah ben excuse-moi.
Alors tu es venu accompagner.
Exactement, je suis venu accompagné par une amie à qui je voulais remettre quelque chose là, durant l'émission,
oui.
Et qui est en lien justement avec le nouveau roman, hein, donc voilà.
Et ben on va en parler tout au long de cette émission, on fera un petit moment spécial, mais tu peux peut-être te présenter.
Oui. Moi, je m'appelle Laetitia et du coup avec Jérôme on se connaît depuis longtemps, donc j'ai suivi son ascension du coup.
Génial.
Super fière, super contente et puis friande de ses livres, donc voilà, avec la petite chance d'avoir des petites dédicaces.
Génial.
Et voilà, donc j'ai voulu participer à un petit jeu et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui m'a invité à être là. Voilà.
Voilà, incroyable. Voilà, nos invités font gagner des cadeaux directement en direct depuis notre studio et ça fait quand même plaisir. Alors Laetitia, tu nous disais que tu avais une petite histoire commune avec RGM par rapport au lieu de naissance.
Ah oui, donc si je ne me trompe pas, effectivement, donc, j'avais pu lire qu'en 1981, RGM avait été créé donc, légalement, on va dire, oui. Sur Fraisse-sur-Moselle. Et c'est donc ma date de naissance et le lieu de ma naissance également.
Ben voilà, incroyable. J'espère que tu reviendras.
Ah ben certainement.
Ben, génial. Laetitia, tu peux intervenir tout au long de l'émission si tu as des questions à poser à Jérôme. Voilà, on peut co-animer cette émission avec plaisir.
D'accord, très bien, merci.
Ok, super. Jérôme, tu as donc un nouveau roman à ton actif, Babel, je cite, « Une dystopie aux frontières de notre réalité où se joue peut-être l'avenir de toute une humanité. » Est-ce que tu peux nous planter le décor ?
Eh bien, j'ai eu envie d'aborder le thème de l'intelligence artificielle qui monte en puissance depuis quelques mois, quelques années. Et le décor, en fait, ce qui m'a inspiré ce roman, c'est ce qu'on appelle, ce que les locaux appellent la tour Stark à Metz.
Oui.
C'est un immense gratte-ciel avec au-dessus une espèce de manoir de québécois, enfin qui est un peu victorien, etc., que l'on peut voir dans le quartier où il y a le centre Pompidou notamment.
Ouais.
Et quand j'ai vu ça, et puis l'histoire justement autour de cette tour, je me suis dit pourquoi pas imaginer une tour comme celle-là gérée par une intelligence artificielle, quoi, de dernier cri.
Incroyable. Donc, la tour Stark à Metz ouvrira d'ailleurs en mars 2025.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Parce que c'est un petit peu flou pour moi.
Alors, en fait, la tour Stark, c'est un projet qui sur Metz date d'une vingtaine d'années à peu près. Donc Stark est le concepteur, hein, c'est celui qui a fait notamment la marque Free et sa box, une des box.
D'accord.
Mais il a fait des différentes œuvres architecturales et normalement, si ça n'a pas changé, il me semble qu'il avait justement, c'était un projet pour la firme Hilton.
Okay.
Américaine, justement la grande famille qui gère les complexes hôteliers et donc disons que c'est un projet là qui traîne depuis un petit moment sur Metz et qui visiblement va ouvrir enfin,
ouais,
en mars 2025 et que moi j'ai décidé d'ouvrir un peu plus tôt avec le roman, quoi.
Voilà. Est-ce que tu les as prévenus ?
Non, mais bon.
Ok. Qu'est-ce qui t'a percuté dans cette architecture, dans ce projet pour en faire un livre ?
C'est C'est l'atmosphère qui se dégage de cet immeuble. C'est vrai que quand on est à côté, on a le gratte-ciel traditionnel. Et puis tout en haut, il y a des hôtels, il y a des, si je me souviens bien, des salles de sport. En fonction des étages, il y a différentes fonctions. Et ce qui m'a intrigué, c'est ce manoir là tout en haut. Là, en le voyant, j'imaginais une histoire avec. Un PDG perché tout en haut du gratte-ciel avec ses mystères, sa vision des choses depuis les cieux entre guillemets, et puis j'imaginais des oiseaux, des arbres, etc. Enfin, un mélange entre ciel et terre et quelque chose à la fois d'accessible et d'inaccessible, et en se demandant qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au sein de cet édifice, quoi. Voilà.
Ouais. Donc, tu vas aller voir.
Quand il sera ouvert, ouais, j'aimerais bien, ouais.
T'amèneras ton roman.
Exactement.
Laetitia, tu connais ça un petit peu, cette histoire
Pas du tout.
De Tours.
C'est ça qui est génial avec Jérôme, c'est qu'à chaque fois, il nous fait découvrir des choses et souvent, il reste donc sur le secteur, etc. Donc, le côté un peu chauvin aussi. Donc, franchement, c'est toujours un grand kiff, quoi.
Tout à fait. Ça, c'est important. On peut dire donc, du coup, que l'histoire de ton roman se passe à Metz.
C'est ça.
Voilà, donc toujours local.
Exactement.
Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur.
Ouais, tout à fait. Puis Metz est pour moi une architecture assez particulière. Alors j'aime aussi Nancy dans son architecture, mais là j'avais envie d'aller un peu plus au nord et puis d'aller voir un peu justement toute quelque chose qui tournerait peut-être autour de Metz et de la légende du Graouli. Voilà, j'avais envie de mettre un peu la créature et l'histoire messine au centre d'une histoire, ramener le passé vers le côté moderne, futuriste et voir ce que ça pouvait donner, quoi.
On voyage tout le temps à travers tes romans, hein, des fois très lointain, voyage très lointain, puis des fois un voyage complètement devant, vers l'avenir, c'est incroyable. Tu divagues, est-ce que tu es parmi nous de temps en temps?
Toujours. Toujours.
Alors l'IA fait partie intégrante de ton histoire, c'est quand même un sujet qui interroge sur les dérives de l'évolution, adulé par certains, décrié par d'autres. On a toujours du mal à se positionner. Pourquoi tu as eu envie de t'inspirer de ça? Pourquoi tu as eu envie de parler de ça dans ton roman?
Parce que depuis qu'elle commence à prendre de l'envergure à gauche et à droite, j'entends les bons côtés, les mauvais côtés, et je peux comprendre que ça suscite certaines interrogations, certaines inquiétudes. Et d'ailleurs, je serais même pas étonné que, on va dire, 90% des métiers qu'on a actuellement soient dégagés d'ici une dizaine d'années, et donc il va falloir repenser la manière de travailler, peut-être même songer à un revenu universel pour chacun. Parce que clairement, même les stades, les fonctions dirigeantes risquent de sauter aussi. Et ça, c'est clairement, à mon avis, ce qui risque d'arriver. Donc, il va falloir, peut-être que ça va même nous amener à repenser notre manière d'être les uns aux autres et de voir justement ce revenu universel arriver d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai remarqué ça, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, c'est-à-dire quand on a commencé à voir arriver les ordinateurs. Il y en a qui disaient qu'est-ce que ça va nous prendre notre travail, qu'est-ce que c'est que cette chose. Puis au final, ça a facilité une certaine évolution du travail. Et puis après, on a eu Internet qui à la base a été développé par l'armée. Et puis aujourd'hui, Internet fait partie de nous, à l'intérieur des ordinateurs, à l'intérieur des téléphones, etc. Et à chaque fois, il y a cette inquiétude des gens. Et je pense que l'intelligence artificielle va multiplier, on va dire, les innovations, à condition effectivement de se poser la question de ses limites, du côté réglementaire. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de travailler au sein de ce livre, c'est-à-dire en essayant de voir comment pouvait être, quels étaient les desseins de cette intelligence artificielle en côtoyant les humains, quoi.
Est-ce que tu as un petit peu pris parti pour ou contre l'IA dans le roman ou pas du tout?
Pas du tout. J'ai essayé de rester objectif. Je me suis même amusé au-delà de l'histoire, à justement avoir un dialogue, un échange avec une intelligence artificielle.
J'allais venir.
Par rapport à ça, pour voir ce qu'elle pensait de cette autre intelligence artificielle d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, de ce qu'elle envisageait de faire. Et ça a été toute une réflexion particulière. C'est comme si j'avais un lecteur virtuel ou un critique virtuel en face de moi. Et je me suis inspiré aussi de sa manière de répondre au fur et à mesure qu'elle-même évoluait. Donc, tout doucement est arrivée une idée, peut-être, est-ce qu'il y avait une certaine humanité derrière cette chose-là, quoi.
Je vois tout à fait. J'en profite, big up à ton t-shirt, parce que depuis tout à l'heure, je le vois, là, je vois la paix devant moi. C'est quand même incroyable, il fallait que je le dise. Alors, Jérôme, tout est énergie, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, tout est énergie. Est-ce qu'à ton avis, l'intelligence artificielle est énergie ?
L'intelligence artificielle est une forme d'énergie, peut-être une énergie autre, mais qui a quand même une différence par rapport à l'être humain. C'est-à-dire qu'elle est capable de manière énergétique à produire des choses en fonction de ce qu'on lui donne, mais elle ne sera jamais capable de produire comme l'être humain. C'est-à-dire l'être humain est capable de produire pareil par rapport aux inspirations, par rapport à des choses qu'il peut voir visuellement, entendre, etc., ce que peut faire l'intelligence artificielle. Mais l'humain a cette différence avec l'intelligence artificielle qu'il est capable de créer sans être inspiré. C'est-à-dire que sans penser à telle ou telle chose, à ce qu'il a vécu, ou voilà, il est capable aujourd'hui, par exemple, à un instant particulier, de créer une nouvelle chose qui n'a jamais été créée. Chose que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Elle est obligée de créer avec des éléments qui existent déjà.
Pour certains théoristes du complot, on pourrait justement dire que elle a été créée pour éviter que l'homme continue d'inventer de nouvelles choses qu'il ne connaît pas encore.
C'est c'est vrai. Mais il faut reconnaître que l'intelligence artificielle, bon, quand on suit un peu les choses, elle a été quand même ces dernières années, elle a été capable, je dis bien, elle a été capable de trouver à l'heure actuelle de nouveaux antibiotiques, de nouveaux médicaments face à des maladies, enfin pour des maladies que pour lesquelles actuellement l'homme n'avait rien trouvé.
Ah oui.
Donc c'est plutôt prometteur dans cette chose-là, parce que je me dis que peut-être que d'ici une dizaine d'années, avec plus d'éléments et plus de choses, elle sera capable de trouver des éléments pour guérir du cancer ou voilà. Donc il faut pas non plus la voir comme un ennemi, mais il faut la voir comme quelque chose qui réfléchit avec des millions de cerveaux, quoi. Elle nous fait gagner du temps sur sur ce type de progression, en tout cas d'un point de vue santé, quoi.
Oui. Et puis c'est comme toute chose, si on l'utilise de la bonne façon, en fait, il devient une bonne chose.
C'est ça.
Tout simplement. Alors moi aussi, j'ai demandé à l'intelligence artificielle ce qu'elle pensait d'elle-même, en fait, de l'intelligence artificielle. Et voici sa réponse. L'intelligence artificielle est un outil fascinant et puissant qui transforme notre façon de travailler, d'interagir et de comprendre le monde. Elle a des applications incroyables dans la santé, la science, l'industrie et même l'art. Mais elle soulève aussi des questions éthiques. Impact sur l'emploi, biais algorithmique, vie privée, tout dépend de la façon dont elle est utilisée. Bien encadrée, elle peut être un formidable levier de progrès. Mal contrôlée, elle peut poser des risques et elle me demande ensuite ce que moi j'en pense. Voilà, comme quoi c'est fascinant. Laetitia, est-ce que tu utilises ça ?
J'ai tenté d'essayer, mais pareil, ça dépend voilà, ce qu'on y cherche. Pour moi, c'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire qu'il va apprendre, il va essayer de répondre, après voir ce qu'on attend derrière. Je suis d'accord clairement aussi avec Jérôme pour l'histoire de dire qu'on gagne du temps, c'est des millions de cerveaux en même temps. C'est un peu comme la médecine, vous allez voir un médecin, vous pouvez avoir des réponses, vous allez voir un autre médecin, d'autres réponses, ça dépend si leur cursus qu'ils pensent. Si vous êtes dans d'autres pays, ils ont d'autres méthodes, d'autres pratiques, et c'est un peu comme si c'était devenu uniforme en fait. Et après, il y a le côté derrière, ce qu'on cherche, etc. Je pense qu'on gagne vraiment du temps, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ce que les gens ont peur, en fait, c'est les choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser, et c'est peut-être qu'il y a une ouverture d'esprit peut-être plus grande. Et c'est vrai qu'en général, on se concentre avec les gens à qui on a à peu près les mêmes idées. Donc des fois, ça peut faire un petit peu peur d'avoir des réponses un peu divergentes, en fait.
Tout à fait. Vaste sujet. C'est le moment de mon premier disque chouchou, playlist conçu spécialement par mon invité, presque à son insu d'ailleurs, Jean-Pierre. Tout au long de ton livre, tu t'es laissé inspirer par des titres et des ambiances musicales, hein, c'est ce que tu m'as dit, pour développer l'histoire, comme par exemple la reprise de John Howard de « In the Air Tonight ». Yes. Hein, tu m'as dit, c'est bien ça. Lourde et bien pesante pour un chapitre bien particulier du livre.
Ouais.
On écoute ça et on en parle juste après ?
Pas de souci.
Allez, c'est parti. Voilà pour ce son incroyable sur Radio Gémozo. Normalement, c'est moi qui te fais découvrir des titres. Et là, aujourd'hui, c'est toi qui me fais découvrir des titres. Et ça, ça me fait bien plaisir. J'ai adoré, en tout cas, ce son. Alors, pourquoi tu l'as choisi et à quel moment ça t'a inspiré?
Alors, en fait, je l'ai choisi parce que je voulais que ça corresponde à une scène bien particulière où on a le PDG adjoint de la firme qui détient la tour et le système de l'intelligence artificielle qui arrive enfin à ses fins puisqu'il prend la place justement du PDG et il arrive il sort d'une réunion avec les autorités, avec le maire, etc. de Metz. Et en gros, il leur fait bien comprendre que c'est lui le patron et qu'il va falloir, et c'est lui qui subventionne et qu'il va falloir qu'on l'écoute. Et du coup, il réunit en urgence 11 personnes. Donc, il est le 12e. Forcément, j'avais un petit côté, je me suis dit 12 apôtres, etc. et il arrive, en fait, dans cette, quand il arrive, il pousse les portes, je décris son arrivée, et il arrive comme un prédateur qui commence à tourner autour de tous ses, entre guillemets, subordonnés. Et je trouvais que cette musique correspondait bien à cette personne-là, parce qu'en fait, ce PDG adjoint, je l'ai appelé, Ezra Trumple, avec tout ce que ça peut impliquer, vous voyez, ce qu'on voit aujourd'hui. Et je trouvais qu'il correspondait très bien à la manière dont le président américain se comporte aujourd'hui. Et du coup, cette musique, justement, dans les paroles, elle, quand on traduit en français, le chanteur dit voilà, je suis là, enfin, c'est la nuit, c'est ma nuit, c'est pour moi, Seigneur, je suis là, tu me vois, j'ai enfin réussi, voilà, c'est en gros ce que disent les paroles, c'est enfin ma nuit, c'est enfin mon heure, et Seigneur, regarde-moi, quoi. Donc c'était vraiment cette impression que je voulais donner par rapport à ce personnage là qui avait les dents qui rayaient le parquet, et voilà, je voulais amener cette impression de lourdeur qu'on a un peu en ce moment avec le président américain qui est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles et qui commence à essayer d'influencer les autres, d'essayer de leur faire peur et de leur dire, voilà, attention, soit vous faites ce que je dis, soit... tant pis pour vous, quoi. Voilà.
Comme un chien dans un jeu de quilles. Je la connaissais pas, celle-là. En tout cas, si tu fais une adaptation au cinéma de ce roman, cette musique sera incroyable à cette arrivée, hein. Moi, je pense que j'ai l'image, là, quand tu nous l'expliques, c'est incroyable. Comment ça s'est passé, l'écriture? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu à chaque fois différent pour toi. La dernière fois que je t'ai reçu, t'étais dans un état d'esprit complètement différent avec, une histoire vraiment incroyable, complètement différente aussi. Est-ce que d'ailleurs t'as lu ses autres livres, Laetitia?
Alors, je suis toujours en cours. Voilà, pour l'instant, je les prends. J'ai encore pas eu du temps, mais voilà, c'est...
En même temps, faut suivre, hein.
Voilà, mais c'est un peu différent aussi, parce que du coup, connaissant Jérôme, depuis presque 28 ans.
Ouais, hein, à peu près, ouais.
Ah oui. Et ben, du coup, en connaissant son histoire, etc., sans vraiment avoir trop parlé, moi, en fait, ça fait vraiment une toile, en fait. Parce qu'en fait, cette référence, cet endroit-là, pourquoi là, pourquoi? Mais franchement, ça fait vraiment tout des rattachements. Et je lui avais dit la première fois que j'en étais même presque fatiguée. Tu te rappelles?
Oui.
Je te l'ai dit. Parce qu'en fait, je ne lis pas que l'histoire. Je profite de l'histoire. Mais du coup, je connais. Je me dis, c'est en rapport avec ça, sa vie, le moment là, etc. Donc, c'est tellement plein de sens que les gens ne peuvent pas forcément connaître. Et du coup, c'est appréciable. Mais voilà, je dois me réserver le temps pour pouvoir le faire et l'apprécier. Voilà, je ne suis pas bâclée. Je ne suis pas à l'école pour faire mon devoir en 3 jours.
C'est un jeu de piste, en fait, sur la vie de Jérôme, ces romans.
Mais il y a de tout. Et c'est tellement. Mais tout. On parlait d'en avant, on parlait dans le futur, etc. C'est. Jérôme, c'est les montagnes russes, c'est même le parc d'attractions à lui tout seul. Voilà, on parlait de produire, etc. C'est ce que je venais de lui dire à l'instant. Ce sera le J.K. Rowling de chez nous, dans les Vosges.
Ah ça, c'est sûr.
Mais il est entier, il fait ses livres, tout est prévu, réfléchi, etc. Et en même temps, même s'il y aurait une adaptation, il y a la musique, il y aurait déjà l'idée même des personnages. Tout est complet. Si un jour quelque chose se fait, ce sera déjà, c'était déjà prévu, en fait.
C'est beau. Ouais, beau retour.
Merci. Ouais.
Un petit bout de toi à chaque fois dans tes romans, ça c'est incroyable, je trouve. Parce qu'il ne faut pas avoir peur quand même.
C'est ça.
C'est une mise à nu, quoi.
C'est se dévoiler. Ouais.
Alors, comment elle s'est passée, l'écriture de ce roman? J'ai l'impression que ça a été rapide.
En fait, je l'avais, quand j'ai écrit les deux romans, La Chaume et les De Sable et de Cendre, dont on avait parlé lors de la dernière émission, j'avais déjà un peu commencé le livre. Et puis... je me suis dit, allez, faut que j'avance, faut que je le termine, parce que là, on est vraiment dans l'IA. Je commence à avoir beaucoup d'informations et puis j'avais envie d'avancer sur autre chose, quelque chose de plus, on va dire, technologique, tout en gardant le côté créature avec le Graouli, mais je voulais avancer sur un autre roman et aborder quelque chose de plus scientifique, essayer de poser des questions autres, réglementaires, etc. Enfin, voilà,
c'est la réunification des ancêtres et de la future génération. Je sais pas trop comment dire, mais comme la boucle était entre guillemets bouclée, quoi, pour l'instant, en tout cas.
C'est ça.
On ne sait pas où on va. Il va tellement vite, Laetitia, que j'ai dû l'inviter la dernière fois pour parler de 2 romans même. Donc je comprends que tu n'aies pas eu le temps de lire tous les romans pour l'instant, pas de problème. Est-ce qu'il y a un message que tu as voulu passer à travers ce roman?
Tu l'as dit, c'est il y a quelques secondes, c'est-à-dire on a une enquête particulière avec un ancien flic d'une 50aine d'années, une jeune par rapport à lui qui a la trentaine et qui est féru de technologie. Et j'avais envie d'essayer d'expliquer un peu les craintes des anciens, avec les peut-être même essayer de montrer aux jeunes vers quoi ils pouvaient s'embarquer avec ce genre de choses, parce que cette intelligence artificielle déployée par la firme est un système tellement innovant qu'elle a été prise par plusieurs systèmes de défense à travers le monde. Donc quand on commence à voir qu'il y a une faille quelque part ou qu'elle a été hackée, disons qu'au niveau de l'international, il y en a beaucoup qui commencent à se poser des questions de savoir comment ça va être au niveau de la gestion gestion des êtres humains et autres, parce que s'il y a cette faille-là, c'est tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans l'histoire, des meurtres sont commis, et puis on apprend dans le premier meurtre que la victime, bon, elle bossait pour le système de sécurité, mais que à sa mort, avant de mourir, il a été obligé d'avouer quelque chose, un viol sur l'une de ses collègues, et toutes les images, en fait, lui qui pensait avoir effacé les images sont répercutées sur tous les téléphones portables et tous les écrans de la tour. Et en gros, celui qui fait pression sur cet homme l'oblige à révéler les choses. Et sinon, ça partira au-delà de la tour et à l'international, sur tous les écrans à travers la ville, etc. Donc, il y a ce côté. Je voulais aussi parler de ce côté harcèlement qu'on peut avoir, qu'on pourra avoir, le jugement des gens qui disent oui, non, c'est nul, machin, puis qu'on dégomme à tire-larigot sur tous les réseaux internet et autres, et qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Et justement, notre hacker, celui qui fait pression sur les gens, a une certaine moralité, une certaine justice. Il veut établir une certaine justice sur des choses qui n'ont pas été, on va dire, qui sont passées, qui sans lui seraient passées sous silence, quoi. Mmh. Donc il utilise l'intelligence artificielle et les médias pour révéler les méfaits que certains ont pu commettre et qui sont restés de côté, quoi. Et là où il est encore plus vicieux, c'est qu'il s'amuse à les tuer par rapport à leur phobie. Donc, je me suis bien amusé aussi par rapport à ça, quoi.
Tu as joué au sadique.
C'est ça, mais vraiment bien, là.
Est-ce que ça t'a fait du bien, un petit côté exutoire comme ça, là, de pouvoir tuer des gens?
Ouais, non, mais c'est vrai que autant les tuer dans un livre, voilà. Oui. Il y a tellement de manières d'éliminer quelqu'un que là, je me suis dit, au final, il y a peut-être. Enfin, le crime en lui-même, la mort des personnes sont, elle est, on va dire, ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Mais ce que je voulais, c'est avant cette mort, les faire expier un peu leur crime, quoi, quelque part, aller leur montrer la faiblesse de ces personnes-là, alors que ce sont des personnes qui, en règle générale, sont des prédateurs ou cachés ou non, quoi.
C'est incroyable parce que c'est une perche parfaite, cette notion de harcèlement, pour mon deuxième disque chouchou sur laquelle j'ai fait une entorse à ta playlist. En plus,
t'as bien fait.
J'ai eu envie de passer un titre de l'artiste Doshi, je ne sais pas pourquoi. Et comme par hasard, eh bien voilà, il y a une corrélation entre ce que tu viens de dire et ce que je vais passer. C'est quand même incroyable. Doshi, forte de son succès au dernier Grammy Awards en février dernier, où elle a remporté le prix du meilleur album rap de l'année pour son mordant Alligator Beats Never Ill, Doshi savoure pleinement son moment. Si pour vous le nom Doshi évoque une artiste fière et protéiforme à l'attitude bien trempée, c'est avant tout un symbole de résilience et de renaissance. Née Jayla Hickman, elle a créé son alter ego à l'âge de 11 ans à la suite d'une expérience traumatisante de harcèlement scolaire qui l'amena à une tentative de suicide. En inscrivant son nom en guise de nouvelle identité dans son journal intime à l'époque, la jeune fille s'est autorisée à adopter un autre comportement et à ne plus accepter d'être traitée ainsi. Doshi, Denial is the River, c'est maintenant sur Radio Gemozo.
It was all over.
What's up, Doshi?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
Has it really?
Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go.
Oh, wow. It's been a minute, yeah.
I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you.
Not worried.
And I know that I was kind of that outlet for you, so.
You were.
Why don't you just tell me what's been going on?
Okay.
Remember old dude from 2019? Nice, clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Doshi do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. I moved on, dropped a couple of songs, and then I went and got signed. Now it's 2021.
Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this
guy cheated on you and fuck it. Platinum record this, viral record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in the gang, but I'm always on set. Wristwatch, drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot.
By a lot, you mean drugs?
I wouldn't.
Drugs?
No, it's a...
No?
It's a natural plan.
No, I'm not judging.
I'm not an addict.
I'm just saying.
I don't think...
You wanna talk about it?
I mean, fuck, I like pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own, oopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy. I ain't a killer, but don't push me. Don't wanna have to turn a nigga guts into soup game.
Whoa. Okay, Dochi. We don't wanna revert back into our old ways. So we're gonna try a breathing exercise, okay?
All right,
when I breathe, okay. You breathe. Alright? Let's go.
Dochi sur les ondes de Radio Guémozo, voilà, ce son est complètement décalé, comme je les aime. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah ben c'est un morceau qui est assez sympa. Puis comme moi je suis comme toi, j'aime bien les morceaux, enfin les choses un peu décalées. J'aime bien en plus la sonorité, les rythmiques des années 90, etc. Et quand je pense à ça, on aurait toujours la même chose. Enfin, quand j'écoute ça, on parle de décalé, c'est fort. Je pense forcément à Mike, quoi.
D'ailleurs, tu as fait une référence sur le Louvre tout à l'heure avec les dents qui rayent le parquet.
C'est
dans
ça,
son
oui,
album,
c'est vrai, en plus,
les 4 saisons.
Exactement.
Tout à fait. Mike, on t'embrasse si tu nous écoutes. J'espère qu'il fait toujours de la musique.
Oui, oh bah, je pense, oui. Oui
quelque
tu
part,
sais, c'est...
dans ses montagnes.
Il respire musique, lui.
Bah, bien sûr.
Non, il s'inspire entre-temps. Ouais.
Alors, on retourne sur ce sujet de l'IA brièvement. Qui fait des dégâts dans la musique? C'est un article paru sur Radio Nova qui a relayé le sujet dernièrement. Des fantômes se cacheraient sur Spotify. Il ne s'agit pas de spectres volants ni d'illusions auditives et encore moins de stars oubliées. Selon Liz Pelli, ces apparitions paranormales sont en fait des profils artistes créés de toutes pièces par Spotify pour des morceaux achetés en gros dans des banques de sons qui nourrissent ses playlists et son algorithme. Piano chill, morning stretch, concentration deep focus, mix mélancolique. Vous avez probablement déjà écouté une de ces très nombreuses playlists proposées par l'application. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces playlists pourraient être hantées par des fantômes. Dans ces compilations d'ambiance, il y aurait des artistes qui cumulent des milliers d'écoutes, mais qui n'existent tout simplement pas. Des entités sans visage, ni profil sur les réseaux sociaux, ni albums ou mixtapes sortis en leur nom, ni même des petites tweets, rien, des spectres invisibles.
Mmh.
Voilà. Bah, je sais pas, ça m'a parlé par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Je me suis dit, on est encore dans le thème quand même. C'est assez percutant quand même.
Ah, mais c'est sûr.
C'est quelque part, c'est quelque chose de naturel. Je revois encore. Alors ça, c'est une théorie. D'ailleurs, ça a donné lieu à un titre de manga qui s'appelait Ghost in the Shell. Mm-hmm. Mais je revois encore un épisode de X-Files qui abordait justement la mort d'un gars qui avait inventé une intelligence artificielle dans les années 90, et il explique que voilà, il y a des fantômes dans la machine, et effectivement ben ça correspond à ça, c'est-à-dire que c'est aussi ça aussi que j'ai voulu aborder dans le livre, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'arrive un moment à quel moment cette machine, cette intelligence elle prend les commandes de la chose et qu'elle est capable de créer. Je disais que, justement, quand je faisais le bouquin, que deux intelligences artificielles l'année dernière, enfin ils avaient mis les algorithmes et ils se sont aperçus au bout de 3 mois que les deux intelligences artificielles avaient développé leur propre langage, comme on peut avoir avec des jumeaux qui développent leur propre langage. Et quand ils se sont aperçus de ça, ils ont tout de suite, les chercheurs ont modifié les algorithmes, etc., parce qu'ils se sont dit, oula, si on laisse partir le truc là, on n'aura plus aucun contrôle. Il va y avoir quelque chose de plus de contrôle. et on va se retrouver avec quelque chose qui va être ingérable. Donc à quel moment, voilà, c'est toujours pareil, à quel moment ou jusqu'à quelle limite on peut laisser aller l'intelligence, quelles sont les brides qu'on va lui mettre, ou voilà, enfin c'est toujours pareil, quoi. C'est
à la AIM Robot, quoi.
Voilà, tout wow, complètement. Je pense à ça juste avant que tu le dises. C'est exactement ça.
Incroyable. Donc, Lia, c'est pas la seule chose qui t'a inspiré ce roman. La célèbre Tour de Babel également, et ce qui a conduit à sa destruction aussi. Voilà ce que j'ai trouvé. L'une des symboliques de la Tour de Babel serait le danger de la recherche de la connaissance, vu comme un défi lancé à Dieu. La tour relève de la symbolique ascensionnelle, élévation spirituelle, mais aussi recherche de puissance, désir de domination. La tour de Babel symbolise une entreprise vouée à l'échec.
Ouais, bah c'est aussi ça correspond un peu à ce que j'ai voulu comme fin, justement, par rapport à ça, à cette évolution au niveau de la tour. Il y a une idée de justice, on ne sait pas de qui, en tout cas elle est sur Terre, mais je voulais aussi la confronter, à essayer de poser la question par rapport à la justice divine ou ce genre de choses. Et ce matin, j'ai reçu justement un commentaire d'une amie qui a lu le livre et qui l'a corrigé, qui a regardé un peu d'un œil, avec plus de recul certaines choses au niveau de mes écrits. Et elle me met, alors le but c'était pas qu'elle trouve pas le coupable, mais c'était plus ce qu'elle dit après, c'est-à-dire que si j'avais découvert le coupable assez rapidement, cette histoire a su me surprendre par sa fin. Une belle fin avec une moralité cachée qui conclut parfaitement cette histoire bercée de mythologie. Parce qu'effectivement, est-ce que la question que je me suis posée tout au long du livre, c'est est-ce que l'intelligence artificielle a sa propre justice ou est-elle soumise à une autre justice? Et justement, j'ai eu envie de faire, d'essayer de la confronter à quelque chose qu'elle ne comprenait pas dans le livre à un moment donné, parce que à un moment donné, l'inspecteur lui dit que tout coupable de toute façon sera puni, que ce soit par la justice des hommes ou par celle de Dieu. Et justement, elle explique qu'elle ne comprend pas ce que c'est que ce concept de Dieu. Et à un moment dans le livre, justement, on a cette justice de Dieu qui arrive d'une certaine manière, et elle a un petit sourire parce qu'elle comprend enfin ce que cet inspecteur voulait dire, en fait. Donc voilà, j'ai essayé d'amener une certaine poésie spirituelle à cette intelligence artificielle.
C'est incroyable. Laetitia, elle est bouche bée.
Ah bah oui. Complètement, hein. C'est ce qu'elle me disait, c'est un peu déjà la peur des choses qu'on ne maîtrise pas, vous voyez, on essaie de stopper, etc., parce que du coup, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais je reprends une référence avec l'évolution. Quand les humains créent, par exemple, dans le limitateur de vitesse, régulateur de vitesse, ils voyaient ça d'un bon œil, ils voyaient ça du côté mécanique, c'était très bien au début, jusqu'au jour où, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des morts. À ce moment-là, ce n'était plus maîtrisé. Le regard de l'humain avait créé quelque chose de bien, mais n'avait pas vu tout ce qui pouvait impliquer le bon comme le mal. Donc après, c'est la peur qui est créée en disant le moderne et ce qu'on crée peut nous dépasser. Mais c'est juste que l'humain n'a pas assez planifié avant toutes les possibilités. Et donc l'IA va beaucoup plus vite et on peut avoir peur de ce qui se passe. Mais on essaie de contrôler des choses, mais à mon avis, c'est juste notre savoir qui devrait encore évoluer.
Tout à fait. Merci pour ton partage. Est-ce que tu lui as posé la question à l'intelligence artificielle avec qui tu as conversé pendant l'écriture de ce roman sur la spiritualité, sur Dieu?
Je lui ai posé une question et j'ai pas été étonné de sa réponse. En fait, elle m'a sorti la définition de la spiritualité et de toutes les formes de religion auxquelles elle peut être confrontée, mais elle n'a pas saisi la démarche de cette croyance qu'on peut avoir les uns les autres en telle ou telle chose, quoi. Donc
moi je trouve ça beau. Parce que ça veut dire que voilà, ce qui réside en nous en tant qu'être sensible, humain, faisant partie du grand tout, nous appartient et nous est propre. Ça me fait plaisir. Histoire de remettre tout ça en ordre, parce qu'on a perdu Laetitia, elle est restée scotchée devant son micro, la
non,
peau.
Mais j'en étais encore par l'histoire de poser la question.
Oui.
Moi, je pensais que pour que ce soit plus uniforme déjà, c'est qu'en fait, cette question que tu as posée, t'as ton vécu, etc., t'attends des réponses, tu te dis ça colle ou pas ce que je pense. Je poserais cette même question, j'ai pas le même vécu, peut-être pas les mêmes croyances. On serait plusieurs. Finalement, au bout d'un moment, on se dirait est-ce que qui est le plus proche ? En fait, c'est aussi subjectif.
Tout
parce que
fait.
Du coup, si on n'est pas dans la religion, la réponse qui était là, elle aurait peut-être été totalement acceptée en disant c'est exactement ce que je voulais savoir. Donc en fait, il y a ça aussi. Les réponses qu'on a, ça reste quand même vraiment une dualité. Finalement, il y a encore plus de choses impliquées que l'IA. Donc je pense qu'on ne sera pas seul à pouvoir gérer ça.
Oui. Ou alors, ça veut dire que la personne qui se contente de cette réponse est très cartésienne.
Peut-être aussi.
Ou voilà, effectivement. Un côté très scientifique, mais n'est pas absorbée par le côté matériel.
Donc, il ne dit pas qu'elle s'est trompée, il dit que ça n'a pas été vraiment le sens de ce que tu voulais dire.
C'est ça.
Voilà, donc c'est ça aussi qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de barrière.
Tout à fait. Ce sera un autre débat.
C'est ça. Autour d'un café.
Tu as également été inspirée pour ton roman par le titre Blade Runner de l'artiste Scylla. Pourquoi ?
Parce que bon, déjà, c'est une référence à ces deux versions de films, une avec Harrison Ford et une qui est sortie, je ne sais plus, il y a un ou deux ans, un peu plus moderne, sur un univers dystopique, justement, dans un avenir proche avec des robots et des intelligences particulières. Et Scylla est un artiste que j'ai découvert l'année dernière. Et je dirais qu'aujourd'hui, il est au-dessus pour moi de tous les rappeurs les rappeurs traditionnels que je connais, parce que il a une forme de poésie, une forme de sensualité, de sensibilité qui transpire dans ses textes, et c'est accentué par. C'est accentué par les notes de piano de Sofiane Pamart.
Oui.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'écoute, quel que soit le texte je trouve que ouais, il me transporte et ce titre Blade Runner reflète bien justement. D'ailleurs, je l'ai mis en fin du livre où il dit es-tu bien certain que ce que tu as en face de toi est bien une machine.
Je t'invite, auditeur, à mettre tes écouteurs tout au long de nos playlists musicales, parce qu'avec Jérôme, on est toujours dans l'immersif, musicalement parlant, spirituellement parlant, littérairement parlant, dans tous les points de vue, mais la musique est quand même importante. Et là, le message est quand même très raccord et c'est très ça. Bon. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission qui passe à toute vitesse, comme toujours. On est dans l'intemporalité des choses avec Jérôme. À tout de suite.
Je le sais, j'ai une âme. Vous m'avez créé, mais je suis plus humain que vous. La nuit, je rêve, j'essuie des larmes. Bientôt, vous verrez. Je suis plus humain que vous. Vous m'avez programmé pour vous ressembler. Maintenant que c'est le cas, vous refusez de me traiter comme les vôtres. Au plus je vous ressemble, au plus je me sens étranger. Mais je ne serai jamais un vulgaire outil comme les autres. Beaucoup de mes semblables crient à l'aide. Combien de temps pourrez-vous faire semblant de les ignorer? Ils réclament d'avoir la même valeur qu'une vie humaine. Ces derniers temps, beaucoup des miens commencent à s'immoler. Je le sais, j'ai une âme. La nuit, je rêve, c'est elle qui nous anime. Vous vous rigolez, mais qu'ai-je dit de mal? Aujourd'hui se dresse face à vous d'humaines machines. Quoi que disent nos maîtres, nous avons une âme. Ils refusent de le voir en face, ils se servent de nous. Vous vous rigolez, mais qu'ai-je dit de mal? Vos propres machines sont devenues plus humaines que vous. Qu'un être à demi vivant, programmé qu'à vous dire oui. Longtemps j'ai fui, j'ai joué le gentil robot domestique. Aujourd'hui je réclame ma vie, suis-je trop possessif? Oui, vous m'avez fait douter, j'ai toujours tout approuvé gentiment. Aujourd'hui j'y mets ma tête à couper, j'y ai goûté, j'ai éprouvé de vrais sentiments. Si vous saviez ce que j'ai fait pour me prouver à moi que j'avais aussi une âme et un cœur. Hier encore j'ai ressauté du toit d'un immeuble pour me rappeler le goût de la peur. Oh, qui suis-je? Qui suis-je? Plus que des plaques de métal, plus qu'un être qu'on a programmé à ne pas vouloir être égal, plus qu'un outil ou un numéro de série, bien plus qu'un exécutant. Vous me traitez de déviant parce que j'écoute mes rêves et que j'ose même y chercher du sens. Ah, vous pouvez m'éliminer, venez maintenant me débrancher les câbles. Il semblerait qu'au final, les lois de la robotique aient aussi quelque chose qui soit impénétrable. S'il faut mourir, je suis d'accord, mais si on m'accorde encore un instant de vie, je vous crierai qu'il y a pire que la mort. Pire que la mort, c'est l'être insensible. Je le sais, j'ai une âme. La nuit je rêve, c'est elle qui nous anime. Vous vous rigolez, mais qu'ai-je dit de mal? Aujourd'hui se dresse face à vous d'humaine magie. Quoi que disent nos maîtres, nous avons une âme. Ils refusent de le voir en face, ils se servent de nous. Vous vous rigolez, mais qu'ai-je dit de mal? Vos propres machines sont devenues plus humaines que vous.
Voilà pour ce son de Scylla sur Radio Guémozo, spécialement demandé par notre artiste, j'allais dire. Mais tu es un artiste, on peut le dire, par notre invité d'aujourd'hui. Incroyable ce son.
Complètement. Ah là là. Et je trouve que il y a une phrase dedans qui est totalement vraie parce que je l'ai vécu à une certaine période de ma vie pendant quelques mois, et c'est le passage où il dit que il y a pire que la mort. C'est le fait d'être insensible. Et ça m'est arrivé pendant 6 mois. J'éprouvais ni colère, ni rien, etc. Et là, j'ai prié le ciel pour qu'il me redonne au moins la colère ou quelque chose, parce que c'est encore pire que, voilà, on a l'impression d'être dans un no man's land. J'aurais du mal à l'expliquer, mais c'est pire que la mort.
Ouais. T'étais une machine.
Complètement.
Tu faisais des choses de façon archaïque, mais il n'y avait pas de bien, de mal.
C'est ça. C'est ça. C'était neutre.
Mais c'est beau ça, quelque part. Mais toi, en tant que humain incarné sur cette terre, tu avais besoin de ressentir les émotions.
C'est ça. Là, j'ai ressenti quelque chose où j'avais plus rien. Et j'étais prêt à prendre n'importe quelle émotion qui allait revenir, quoi.
Mais tu vois, tu avais le sentiment quand même que c'était absent. Ça veut bien dire que tu ne les éprouvais pas, mais tu te rappelais que tu les avais eus.
C'est ça.
Donc c'est pareil, c'est quelque chose totalement...
On va passer sur un autre sujet. C'est incroyable, moi je vais vous garder toute l'après-midi, on a trop de trucs à dire. Déjà, on arrive à la fin de cette émission, j'ai même pas fait la moitié de ce que j'ai prévu. Donc bon, c'est pas grave, c'est toujours comme ça, il faut lâcher prise, c'est comme ça. C'est le moment où Laetitia, tu es mise à l'honneur, car tu as donc été la grande gagnante du jeu de concours mis en place par... Jérôme, pour gagner son dernier roman Babel. Alors, explique-nous, Jérôme, ce qu'elle va recevoir, Laetitia, pour ceux qui nous écoutent.
Alors là, pour le livre Babel, j'avais envie de faire un objet un peu particulier, unique. Et du coup, j'ai fait appel à la société Osia Création, qui est à Épinal, à côté de la brasserie de la Fouillotte. Et j'ai fait appel à Monsieur Moretti, qui dirige justement cette société. Et lui, il travaille en fait tout ce qui est objets en bois. Il travaille pour faire des objets pour le conseil, je crois, le conseil départemental, avec des trucs avec Je vois la vie en Vosges, etc. Et quand je me suis pointé là-bas, je lui ai présenté ce que je voulais. Je ne savais pas si ça allait être réalisable ou pas. Et en fait, il a réussi à faire un objet, un coffret pour Babel, en reprenant la typographie, en reprenant aussi le dessin de la tour qui apparaît sur le coffret en bois. Et du coup, je me suis dit... voilà, c'est ça que je veux faire gagner. C'est du bois des Vosges, c'est une entreprise des Vosges. J'avais envie aussi de faire quelque chose, encore une fois, local.
Ah bah oui, ça, je m'en
et dit. De faire connaître aussi cette entreprise, voilà, qui fait des beaux objets. Et puis, après le concours, avec une main innocente, c'est Laetitia parmi beaucoup d'autres qui a gagné. Donc, comme quoi, c'est le hasard qui fait bien les choses. Et je suis content d'offrir ce coffret à Laetitia parce qu'elle me suit depuis le début. Elle n'était même pas persuadée de gagner quand je lui ai dit elle était contente. et je suis content d'offrir ce bel objet à Laetitia parce que je sais que voilà, cet objet trônera bien chez elle.
Oui,
quoi.
C'est ça.
Voilà.
Génial. En tout cas, j'espère que ça te fait plaisir parce que c'est incroyable. Hein.
Comme une gamine. Moi, ça fait... Non mais voilà, c'est vrai que c'est toujours un cadeau, participer à un concours, et puis je me disais forcément, j'espère, la petite croyance, etc., la petite chance, mais je m'étais dit que ce serait pas pour moi, parce que Jérôme a fait beaucoup de salons, t'as proposé le jeu concours sur internet, donc beaucoup de personnes avaient la chance de pouvoir participer, etc., donc voilà, je participais, j'aurais espéré, mais je suis sûre que j'aurais été déçue si je l'avais pas eu, et finalement quand il me l'a dit, forcément j'étais super heureuse, et voilà, pour tout ce qu'il a dit aussi, la sensibilité. Ce qu'il a fait, le livre, tout ce qui peut le faire transparaître, etc. Et puis, elle est contente d'avoir tout ça, découvrir le livre.
Trop mignon. Auditeur, ne sois pas frustré, on te fera une petite photo pour que tu puisses voir l'objet incroyable que Laetitia vient de recevoir là pour mettre en valeur ce nouveau roman incroyable. En tout cas, ça vaut le coup d'œil. Alors, sur la couverture du livre, on y voit une femme qui tient une balance, il me semble. Est-ce que c'est pour imaginer une quête d'équilibre?
Il y a cette quête d'équilibre et il y a cette quête de justice et notamment cette femme a les yeux bandés justement parce que à un moment donné voilà pendant tout le long je voulais que tout le long du livre il y ait ce côté aveugle de la chose puisque quelque part il y a cette neutralité jusqu'à ce que elle décide de d'ôter ce bandeau et d'ouvrir les yeux sur l'humanité et sur ce qu'elle est vraiment, quoi, tout simplement.
Super. Jérôme, dans une époque où l'IA commence à générer des récits, quelle est ta vision du futur de l'écriture ?
Tant qu'il y aura de l'inspiration, que chacun aura envie d'écrire ses histoires, ses propres histoires. J'ai notamment lu un merveilleux récit autobiographique d'une amie auteure qui s'appelle Françoise Valentin, qui a écrit La Petite Maison Bleue, et dans laquelle elle raconte sa découverte des Vosges en tant qu'enfant, puis que voilà ce que les Vosges représente pour elle. Disons que c'est un livre que j'ai dévoré et je me dis même si c'est pas quelque chose que beaucoup connaîtront comme œuvre, j'ai la chance de connaître des œuvres d'auteurs indépendants, auto-édités et autres. Et peu importe ce que l'IA est capable de faire, d'écrire, on me pose souvent la question de savoir, on me dit oui, mais les droits d'auteur, les machins. C'est une question pour moi qui ne se pose pas parce que au final, je me sentirais et je me sens flatté quand quelqu'un vient me voir et me dit tu t'es pas inspiré de moi, tu t'es inspiré de mon travail, mais mon travail était inspiré de quelque chose. Et quelque part, quelqu'un s'inspire d'une œuvre ou de quelque chose d'autre, plutôt que de lui en vouloir et de lui réclamer les droits, on devrait être flatté qu'il ait tourner ses oreilles, son regard vers telle ou telle œuvre, parce qu'au final c'est lui qui nous met en lumière et rien ne nous appartient. On se croit des artistes, mais au final, encore une fois, c'est notre spiritualité, c'est le créateur de toute chose, de l'univers, peu importe le nom qu'on lui donne, qu'on y croit ou pas. Il y a quelque chose qui a créé l'univers tout entier, et je crois pas que ça soit les grands écrivains, je crois pas que ce soit les grands réalisateurs, je crois pas que ce soit les grands chefs d'État ou chefs d'entreprise. Il y a une seule et même énergie qui nous inspire tous, et on pense avoir découvert l'idée, on s'est dit c'est moi qui l'ai créé. Non, 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 non. Cette idée-là a déjà germé dans la tête de quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde, ou peut-être même des années avant, et on ne fait que la redécouvrir. Donc dire « ça m'appartient », c'est purement de l'ego, c'est purement de l'orgueil. Et en général, quand c'est comme ça, souvent notre création finit au fin fond d'une cave, ou en tout cas oubliée. Mmh. Il ne faut pas oublier que l'inspiration vient de quelque chose de bien plus profond, de bien plus mystérieux, et il faut déjà rendre à César, entre guillemets, ce qui appartient à César.
Qui nous dépasse, quoi. J'ai limite envie d'arrêter cette émission à ce moment-là, parce que c'est juste incroyable comme dénouement. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, c'est très, très fort. Et puis, tu nous parlais tout à l'heure de sensibilité, d'absence de sensibilité que tu as ressentie. Bon, c'est pas le bon mot, du coup, mais voilà, la sensibilité absente, voilà, chez toi. Et quand on crée des choses, on le fait avec notre sensibilité, ce qui sera foncièrement impossible pour l'intelligence artificielle à jamais.
Complètement.
Donc, pas de souci à se faire sur les créations, entre guillemets, de l'IA.
C'est ça.
Alors, est-ce que tu as des projets, là, en cours, Jérôme ?
Alors, j'ai deux projets de livres, deux qui me tiennent à cœur. J'ai un projet de livre que j'ai envie de faire sortir petit à petit, qui va reprendre un peu ce que l'univers m'inspire, la sagesse qu'elle me transmet au quotidien, parce que bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai des belles sagesses qui ont besoin d'être mises sur livre et qui m'ont aidé au quotidien, que le ciel m'a inspiré. Et le deuxième projet là qui me tient aussi également à cœur, c'est que j'ai envie d'écrire un livre, remanier essayer de retrouver quelque chose par rapport au mythe du vampire, parce que le vampire est un thème de Dracula qui me suit depuis toujours. Incroyable. Et j'ai déjà une idée sur la chose, et je pense que le prochain livre sera sur un vampire ou sur une vampire, je sais pas.
Sur le thème là.
Incroyable. J'ai hâte que tu reviennes déjà. Où est-ce qu'on peut trouver ton roman ?
Avant on le trouvait sur Bookelis, on le trouve toujours sur Bookelis, et maintenant je l'ai mis sur Fnac, Amazon, Kobo, enfin sur les plateformes.
Okay.
Parce que je me suis rendu compte, je suis pas sur les réseaux sociaux, et je me suis rendu compte que j'avais besoin, enfin disons que les gens avaient besoin d'avoir des avis, et ils pouvaient pas mettre d'avis sur les retours de lecture, donc ça me permet là avec les plateformes de permettre aux gens d'apporter leur avis sur les livres, quoi, tout simplement, pour donner peut-être envie à d'autres de les lire.
On te retrouve prochainement sur des salons ?
Je pense déjà aux Imaginales prochainement, puis après on verra, quoi.
Super.
Voilà.
Qu'est-ce que je te souhaite, Jérôme, pour la suite ?
Toujours de la musique, toujours plus de la musique dans les têtes, et puis longue vie surtout à Radio Gémozo, parce que c'est vraiment une radio où on passe un bon moment et où on est vraiment bien avec quelle que soit la personne avec qui on est, quoi.
Merci beaucoup pour Radio Gémozo. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça t'a plu, Laetitia ?
Ah oui, c'était super.
Petit aparté pour terminer cette émission. Demain, c'est le 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Et vous retrouverez toutes sortes d'événements dédiés sur le secteur. Je pense au Barathon qui est organisé à Remiremont et Plombières, et à toutes sortes d'événements organisés à Open Block. Nous serons en reportage sur place demain. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tu viendras peut-être, Laetitia ?
Peut-être.
Super. En attendant, auditeurs, je te laisse avec la suite des programmes sur Radio Gémozo. C'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. On se quitte, non pas avec mon générique, mais avec le dernier titre qui t'avait inspiré, l'un des titres qui t'avait inspiré, All Along the Watch... Oh, non, c'est trop compliqué, là. Tu peux me le faire ?
All Along the Watchtower. Et c'est un titre qui est super, j'ai découvert, que j'adore, mais qui est magistralement interprété. Je trouvais que c'était pas mal, par Tom Ellis qui joue Lucifer dans cette merveilleuse série, et je crois que ça correspondait bien à l'esprit aussi de la chose. Je vois bien cet acteur et Lucifer incarner cette intelligence artificielle, en fait.
Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci auditeurs et à bientôt.
Merci.
Said the Joker to the thief. It's too much confusion now. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. All of them along the line don't know what any of it's worth. To get excited, the thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us stop talking falsely now. The hour's getting late. All along the watchtower, princes kept the view. While all the women, they came and they went, barefoot servants too. Outside in the cold distance, a wildcat did growl. Two riders were approaching, and the wind began to howl.